Le journal Loïc Barrière. Les Bahreïniens aux urnes ce samedi pour renouveler les 40 sièges de la chambre basse du Parlement. Un ambassadeur nommé en Israël par la Turquie, une première depuis 4 ans. Benjamin Netanyahou sera chargé officiellement demain de former le prochain gouvernement israélien. Analyse de Patrick Leyaric, éditorialiste à l'Humanité. En Iran, au moins 326 manifestants ont tué dans les manifestations, selon un nouveau bilan donné par une ONG. Une manifestation contre le racisme et les idées d'extrême droite aura lieu demain à Paris. À l'appel de plusieurs associations, entretien avec Safia Aït Warabi, vice-présidente de SOS Racisme. Enfin, après le débarquement de ses passagers, l'Ocean Viking a quitté le port militaire de Toulon. Des élections législatives à Bahreïn, il s'agit de pourvoir les 40 sièges de la chambre basse du Parlement. 330 candidats se sont présentés, parmi lesquels 73 femmes. À noter l'absence des deux principaux groupes de l'opposition, El Wefaq et El Ouad, interdits par le pouvoir en 2016 et 2017. Pendant quelques heures hier, les sites internet du Parlement, de l'agence de presse officielle et le site officiel des élections ont été piratés. Le ministère bahreïni de l'Intérieur a dénoncé une action visant à entraver les élections. Vainqueur des élections législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahou sera chargé officiellement demain de former un nouveau gouvernement. Le bloc comprenant le Likoud, ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite, est arrivé devant le bloc dirigé par Yair Lapid. Éditorialiste à l'Humanité, Patrick Leyaric revient sur le résultat de ces législatives.
Je suis quand même très choqué du résultat des élections, puisque comme vous venez de le dire, l'ancien Premier ministre va revenir aux affaires, mais dans des conditions nouvelles, puisqu'il va être flanqué d'un parti d'extrême droite un peu fascisant et d'un parti des ultra-orthodoxes qui, eux, évidemment, sont là pour à la fois sauver le capitalisme israélien, mais surtout pour écraser toute idée, tout projet d'État palestinien. D'ailleurs, celui qu'on pressent comme le ministre de la police n'a pas caché, puisqu'il a dit « le temps est venu d'être maître de la totalité de notre pays », ce qui veut dire exactement que les Palestiniens n'auront pas d'État. Et donc, c'est assez inquiétant, et cette banalisation-là du discours et de la non-action des capitales occidentales est également très préoccupante.
Vous attendez une réaction forte aujourd'hui des capitales occidentales et notamment de l'Union européenne ?
Ben oui, l'Union européenne vient de renouveler le Conseil du partenariat entre l'Union européenne et Israël et l'État d'Israël sans beaucoup broncher, sans se préoccuper de la mise en œuvre du respect du droit international, sans se préoccuper du fait que on crée dans cette région des citoyens de seconde zone qui sont les Palestiniens, en opposition totale d'ailleurs avec les normes internationales communément admises. Donc ce laisser-faire là est totalement intolérable, et il s'éloigne du droit international. Lequel droit international serait valable peut-être, comme on le dit en ce moment, pour la Russie, mais ne serait pas valable pour Israël. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce monde. Et donc, moi je crois que ça doit conduire le mouvement de solidarité avec les démocrates israéliens et avec le peuple palestinien pour son État à redoubler.
Et vous craignez une accélération de la colonisation dans les territoires palestiniens suite à ces élections et ces résultats ?
Oui, je crois que c'est ce qui va se produire. S'il n'y a pas de parole aux États-Unis et en Europe pour bloquer cela, ça va se poursuivre. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a maintenant des ministres et le chef d'état-major des armées lui-même, il habite dans une colonie. Donc, quand on en est arrivé là, chacun voit bien que la détermination des militaires et de la direction du gouvernement israélien, elle est d'anéantir le peuple palestinien, qu'il croit anéantir, mais peut-être que dans une dizaine d'années, cela se retournera contre eux, parce qu'ils ne peuvent rien contre la démographie. Le peuple palestinien, c'est 18 millions d'habitants au total, y compris ceux qui sont à l'extérieur. Le peuple israélien, c'est 6 millions. Si on veut faire, si on recherche une solution autour de cela et des élections démocratiques, le peuple palestinien restera majoritaire dans quelle que soit la situation.
Et vous l'avez dit, vous comptez notamment sur les démocrates israéliens pour empêcher cela.
Ben, ils sont aujourd'hui en difficulté. Le parti travailliste israélien n'existe quasiment plus. Les forces de gauche qui avaient présenté, ils s'étaient regroupés, avaient présenté des candidatures communes. Ils avaient d'ailleurs eu 15 députés, ont été divisés cette fois-ci, et ce n'a pas été une bonne chose. Un parti islamiste arabe a brisé la coalition, s'est allié dans le précédent gouvernement, il le fera peut-être encore. Donc oui, il y a du mouron à se faire pour les démocrates israéliens, pour les arabes israéliens, qu'il faut d'une manière ou d'une autre soutenir sur la base du droit international, sur la base du respect de l'existence de l'État d'Israël et de la création d'un côté de lui en sécurité d'un État palestinien. C'est cela qu'il faut aboutir. C'est ce qu'a dit il y a quelques mois encore Joe Biden en se rendant dans la région. Il l'a dit ça, je pense, sans grande conviction, parce que depuis, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, il répondait à François-Xavier de Calonne. La Turquie a nommé un ambassadeur en Israël, une première depuis 4 ans. Il s'agit de Sakir Özkan Torunlar, un diplomate qui a déjà été consul général de Turquie à Jérusalem. C'était entre 2010 et 2014. Cette décision est annoncée par Ankara quelques mois après la reprise complète des relations diplomatiques entre les deux pays. En Égypte, au moins 19 morts dans un accident de minibus. Le drame a eu lieu dans le delta du Nil, dans le nord du pays. 6 personnes ont également été blessées. Au moins 326 manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis septembre. Un bilan donné par l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo. Parmi ces victimes figurent 43 enfants et 25 femmes. Ces manifestations ont commencé après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police des mœurs. 7 Français sont actuellement détenus en Iran, c'est ce qu'a annoncé Catherine Colonna. La ministre française des Affaires étrangères réclame leur libération immédiate. Une manifestation contre le racisme et les idées d'extrême droite aura lieu demain à Paris à l'appel de SOS Racisme et d'autres organisations comme le MRAP et la Ligue des droits de l'homme. Ce sera à 15h sur la place de la République à Paris. On écoute Safia Haït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme.
On appelle à une manifestation ce dimanche 13 novembre à partir de 15h place de la République parce qu'on estime que la société civile doit se mobiliser grandement, massivement. Et donc je pense que cette manifestation doit être vue comme un premier appel à une mobilisation large et massive contre la banalisation du Rassemblement national, de l'extrême droite zémourienne, mais également des idées d'extrême droite dans leur ensemble. Et pourquoi ? On a vu malheureusement depuis cette rentrée que l'actualité qui concerne les idées d'extrême droite s'accélère. C'est la récupération odieuse du meurtre de la jeune Lola avec des milices fascisantes qui manifestent, qui crient des slogans comme « mort aux gauchistes »,« mort aux migrants », qui sont vraiment dans des appels à la haine et à la mort, mais également en pleine Assemblée nationale, un député Rassemblement national qui ose dire hein, de ses collègues NUPES, eh bien, retourne en Afrique, ou alors, eh bien, l'autre possibilité était qu'il retourne en Afrique au pluriel en parlant de migrants. Dans les deux cas, on est dans une attaque raciste et ou xénophobe, de toute façon. Et je vous laisse imaginer, de toute façon, que si cela se produit à l'Assemblée nationale, devant des caméras, au cœur de l'institution, au cœur de la République, je vous laisse imaginer comment dans le reste de la société, eh bien, cette ambiance, eh bien, pousse à des passages à l'acte. Et nous, à SOS Racisme, avec nos permanences juridiques, avec toutes ces personnes qui nous appellent pour de l'aide, pour faire constater leurs droits, eh bien, on se rend compte que cette ambiance-là, elle accélère aujourd'hui les passages à l'acte, les violences, les insultes racistes et parfois même pousse au crime.
Vous constatez aujourd'hui une augmentation des passages à l'acte ?
Tout à fait, on constate que l'ambiance médiatique, politique pousse certaines personnes, on peut vraiment utiliser le terme de radicalisation, à se radicaliser, à passer à l'acte. Il y a une certaine impunité en termes de discrimination raciale, des gens qui ressentent une ambiance pesante, mais aussi des personnes qui concrètement nous appellent parce qu'elles ont subi des agressions racistes. Quand ça ne va pas plus loin encore dans la violence. Donc ça, aujourd'hui, c'est une réalité. La société doit s'en rendre compte. Et aussi, on a tenu à ce que ce soit les organisations de la société civile, c'est-à-dire les associations antiracistes, les syndicats, les organisations culturelles, communautaires, mais également les organisations antifascistes, des quartiers populaires, qui s'emparent de cette question-là, parce que on veut que ce soit un premier appel à de nombreuses manifestations, à de nombreux rassemblements, qui puissent se tenir dans les rues pour dire non à la banalisation de ces idées. On a dit effectivement dans le slogan de la manif « Contre le racisme et les idées d'extrême droite ». On a tenu à parler d'idées d'extrême droite parce que notre adversité, notre combativité face au camp de l'extrême droite est claire, mais on tient aussi à ce que eh bien, les autres camps politiques qui sont traversés par ces idées-là tentent à faire d'énormes clins d'œil, voire à être complices, comme peut l'être par exemple Gérald Darmanin au gouvernement, eh bien, on puisse aussi combattre ces idées-là et pas seulement le camp politique eh bien, qui les promeut.
Ces idées-là qui se propagent, dites-vous, en France, mais également dans plusieurs pays européens.
Tout à fait. On le sait, l'Europe, depuis de nombreuses années, à traverser ce qu'on a appelé la peste brune, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite d'abord en Europe centrale, mais plus récemment, on peut parler aujourd'hui de l'Italie qui a basculé et qui a aujourd'hui à la tête de son gouvernement eh bien, un gouvernement d'extrême droite que beaucoup des confrères journalistes ont appelé post-fasciste, mais qui sont en réalité un pouvoir fascisant, tout droit descendu eh bien, de la lignée de Mussolini. C'est très inquiétant parce que si aujourd'hui on peut tous avoir des discussions sur qu'est-ce qu'on appelle le fascisme, qu'est-ce que le fascisme, est-ce que l'Italie de Meloni est un État fasciste, est-ce que le Brésil de Bolsonaro est un État fasciste, est-ce que les États-Unis de Trump est un État fasciste, dans tous les cas. Là où l'extrême droite a été au pouvoir, ça a été une atteinte considérable et meurtrière des droits de toutes les minorités. Ça a été une accélération du crime, une banalisation du crime et surtout une atteinte profonde à la démocratie parce que, par exemple, dans le cas de Trump et de Bolsonaro, eh bien, ces deux candidats n'ont pas reconnu leur défaite et on se rend compte, eh bien, ça donne l'occasion en fait aux militants fascisants, aux milices, eh bien, de s'adonner à de la violence.
Safia Aït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme au micro de François-Xavier de Calonne. L'Ocean Viking a quitté le port militaire de Toulon après le débarquement de ses 230 passagers. Hier, les personnes arrivées en France se trouvent dans une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gien. Avant de repartir au large de la Libye, le navire humanitaire restera pendant quelques semaines dans un autre port français pour une escale technique. 175 migrants quitteront la France pour être relocalisés dans 11 autres pays européens. Un nouveau féminicide en France. Une femme de 34 ans est morte sous les coups de son mari, âgé de 43 ans. Le meurtre s'est déroulé à L'Étambert, dans les Bouches-du-Rhône. Son mari a été placé en garde à vue. Selon le procureur, le suspect, atteint de troubles psychiques, était persuadé que la victime pratiquait sur lui des actes de sorcellerie. Le Festival international du film de Marrakech, inauguré hier soir après 2 ans d'absence due à la crise sanitaire. Un hommage a été rendu à l'acteur indien Ranveer Singh. Le festival rendra hommage également à l'actrice écossaise Tilda Swinton, au cinéaste américain James Gray et à la réalisatrice marocaine Farida Ben Liazid. Tous les trois recevront l'étoile d'or durant ce festival. Enfin, la petite finale du mondial de rugby féminin remportée par la France. Les Françaises se sont imposées 36-0 face au Canada pour décrocher la médaille de bronze lors de ce mondial en Nouvelle-Zélande. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h sera Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger. Il dirige également la collection Planète Libre chez CNRS Éditions. Émission rediffusée demain dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.